They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达鲁加正忙
着正忙着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, comme chaque vendredi, un sujet d'actualité internationale. Et aujourd'hui, bien sûr, on s'inscrit pleinement dans cette journée spéciale autour du Brexit sur France Culture, en partenariat comme chaque vendredi dans Culture Monde avec Le Monde. Bonjour Marc Semo,
bonjour.
Journaliste au Monde. On va parler ce matin de la Grande-Bretagne, mais aussi de l'Europe. La Grande-Bretagne où hier, à 8 jours du référendum sur l'Europe, une députée pro-européenne du Labour, Jo Cox, a été assassinée en pleine rue. Alors même s'il faudra attendre pour savoir quelles étaient les réelles motivations de l'auteur, il n'en demeure pas moins que l'agresseur aurait crié « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. Par ailleurs, c'est le nom aussi d'un groupe d'extrême droite dissident du British National Party. Si la campagne a été temporairement suspendue, le vote du 23 juin prochain pour le référendum sur l'Europe aura bien lieu. Et alors que jusqu'ici les sondages prédisaient un résultat très indécis, la plupart d'entre eux donnent désormais le Brexit vainqueur. Alors que de nombreuses voix également se sont élevées ces derniers mois, pour mettre en garde contre la sortie de l'Europe, la chancelière allemande bien sûr Angela Merkel, le président François Hollande, bien sûr Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, même le locataire de la Maison Blanche Barack Obama, on va se demander si finalement elle ne pourrait pas constituer pour l'Union une opportunité pour repenser le projet européen et reposer le compromis entre les élites et le peuple, comme le disait l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine dans une récente tribune au Monde justement. Le Brexit pourrait-il constituer une opportunité pour l'Europe? Serait-il de nature à endiguer l'euroscepticisme et à forcer l'Union à changer de l'intérieur? Et comment faudrait-il justement s'y prendre pour repenser ce projet? De quoi serait-il fait? Comment y associer les sociétés civiles? Quelles réformes pour les institutions? Voilà un certain nombre de questions qu'on se posera tout à l'heure. Avec deux invités qui sont d'ores et déjà avec nous en plateau. Clémentine Forissier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef de Context, qui est un journal de politique française et européenne. Thierry Chopin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur des études à la Fondation Robert Schuman et chercheur associé aux séries Sciences Po. Merci également d'être avec nous. Avant d'évoquer toutes ces questions, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Nigeria.
Boko Haram, ça veut dire que la civilisation occidentale est tabou. C'est complètement interdit. Certains parlent d'éducation occidentale, mais ce n'est pas seulement ça. Il est question de la civilisation occidentale.
La cible la plus importante, c'était les jeunes. Quand il parlait, les jeunes écoutaient, ils sentaient qu'il les représentait. Et ça, ce fut le point de départ. Il y avait un nombre important de jeunes éduqués à l'occidental qui ont rejoint Boko Haram sur la base des convictions de Youssouf. Ils ont été conquis, ont déchiré leur diplôme et l'ont rejoint.
Bonjour Xavier Mounz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, on vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait, Boko Haram, les origines du mal, qui sera diffusé sur Arte le 28 juin prochain. Alors, petit rappel pour les auditeurs, depuis plusieurs années maintenant, le nord-est du Nigeria subit les violences de cette secte islamique Boko Haram. Elle a été créée en 2002. Il est dirigé depuis 2010 par Abubakar Shekau. C'est celui qui est à l'origine, d'une certaine manière, de l'intensification du conflit qui mine le pays depuis 2013-2014. On va le voir. À l'été 2014, le groupe islamique avait lancé une grande offensive qui lui avait permis de s'emparer d'un certain nombre de villes. C'est aussi cette période, on s'en souvient, où ces fameuses 276 lycéennes de Chibok avaient été enlevées. La plupart sont encore retenues. Et pour la première fois d'ailleurs, une d'elles a été retrouvée par l'armée à Baal, dans la forêt de Sambisa. Si l'armée nigériane, Xavier Mounz, est parvenue à reprendre certaines villes, elle s'est aussi globalement montrée incapable de faire face à la menace. En réalité, ce qui a produit beaucoup de critiques extrêmement virulentes à l'égard des militaires nigériens, dont d'ailleurs beaucoup se sont ont commis des exactions. On le verra également, ce qui a alimenté d'une certaine manière le conflit. C'est aussi, il faut le rappeler, un moment où le conflit va s'internationaliser. Les pays de la région vont décider de s'engager dans cette lutte également, et en particulier les trois pays qui sont frontaliers, c'est-à-dire le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et puis entre-temps, rappelons aussi peut-être pour les éditeurs qu'au printemps 2015, Boko Haram avait prêté en tout cas allégeance à l'État islamique, se rebaptisant d'ailleurs État islamique en Afrique de l'Ouest. Première question, Xavier Mounz, est-ce que c'est compliqué d'arriver au Nigeria et de réaliser ce travail d'enquête sur l'émergence de Boko Haram? Est-ce qu'on a facilement des autorisations? Est-ce qu'on peut facilement circuler? On vous a laissé travailler?
Alors effectivement, c'est très compliqué de travailler au Nigeria et ça commence dès le départ. En fait, ça commence dès le consulat du Nigeria à Paris, puisqu'il faut... moi qui travaille en télé, j'ai beaucoup de matériel avec moi. Je trimballe 50 kilos de matériel. Je peux pas passer avec un visa touriste. Je me ferai arrêter tout de suite. Donc j'ai besoin d'avoir un visa de presse. Personnellement, le visa de presse, je l'ai demandé, je me souviens, c'était en juin 2015, et je l'ai obtenu en janvier 2016. Après moult et moult rebondissements, le truc qu'il y a, c'est que dès qu'on a affaire à l'administration nigériane, on rentre dans une espèce de bulle kafkaïenne qui est très décourageante. Je vous donne un exemple concret. Au bout de 3 mois, comme j'arrivais toujours pas à obtenir mon visa, le président Bouhari, Mohamed Bouhari, le nouvellement élu, est venu en visite officielle à Paris. Donc j'apprends qu'il est à l'hôtel Maurice, qu'il va donner une conférence de presse restreinte à certains journalistes. J'en profite pour aller à l'hôtel Maurice, faire un saut dessus, comme on dit. Bon, je fais une petite interview de 5 minutes où on n'apprend pas grand-chose. Et à la fin, évidemment, je demande un coup de main, une aide. Voilà, monsieur le président, je travaille là-dessus. J'ai absolument besoin de me rendre à Maïdougouri. J'arrive pas à avoir de visa. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc là, il a un peu d'humour, hein. Donc il m'a dit, écoutez, si vous avez une bonne assurance, vous pouvez venir à Maïdougouri. Donc on a rigolé. Et puis il m'a présenté son conseiller. Il m'a dit, il va vous occuper de vous. Vous inquiétez pas.
Et ils vous ont aidé.
2 semaines après, j'avais l'autorisation du ministère de l'Information pour l'obtention de mon visa. Et là, je pensais que c'était fini, que c'est bon, je pouvais me rendre au Nigeria. Mais non, on est dans l'administration nigérienne. Je me rends au consulat et là, on me dit, non, on n'a pas reçu l'autorisation du ministère. Je recontacte le ministère, ils me disent, mais si, non, mais non, on l'a pas. Puis finalement, ils admettent l'avoir, mais ils me disent, ah ben on est désolé, on a perdu votre passeport. Ah bah c'est pas grave, comme je suis journaliste, j'en ai 2 de passeport, tenez prenez l'autre. Ah oui, d'accord. Mais là non plus enfin le passeport était perdu dans un service, il a dû donc on a encore passé quelques coups de fil avec l'ambassadeur pour savoir ce qui se passait. Et finalement, au mois de janvier, j'ai pu me rendre au Nigeria. Mais une fois qu'on est au Nigeria,
une fois sur place, c'était
pas
plus facile.
Il y a encore d'autres problèmes.
Et en particulier des problèmes qui émanent de l'armée elle-même, qui n'a pas beaucoup apprécié vous voir fouiner dans tout ça. Et
ah,
en particulier vous intéresser aux exactions commises à l'égard des populations.
Ah, complètement. De toute façon, l'armée là-bas fait autant partie du problème que de la solution. Je comprends pas du tout leur stratégie de communication où on a l'impression que c'est un pas en avant, un pas en arrière. La première fois que je me suis rendu à Maïdougouri, j'avais donc les autorisations civiles du ministère de l'Information pour pouvoir me déplacer et travailler dans cette zone. J'ai évité au départ de travailler avec l'armée, mais bon, à un moment, elle est incontournable. Donc, il y a un moment, il fallait que j'aille les voir. Mais au début, j'ai évité. Et puis finalement, quand j'ai essayé d'entrer dans les camps, l'armée m'a arrêté.
Placé en détention.
Alors ça, c'était la deuxième fois.
D'accord.
Là, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, voilà, c'est un théâtre d'opérations militaires. Vous n'avez pas d'accréditation de l'état-major. Vous partez, vous quittez la ville. J'ai dit, bon, bah écoutez, moi, je travaille pas avec vous, mais je vais continuer à travailler à Maïdougouri puisque je suis là, j'ai le droit d'être là. Non, 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 non. Vous quittez pas l'hôtel. Vous quittez l'hôtel uniquement pour aller à l'aéroport et partir d'ici. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Et la prochaine fois que vous venez, vous ne travaillerez pas sans escorte militaire. J'ai refusé. J'ai compris que j'avais pas le choix. Donc là, la deuxième fois, quand je suis venu, alors que j'avais toutes les autorisations, ils saisissent mon passeport. Ils me placent en détention pendant 2 heures. Enfin, voilà, j'étais bloqué dans une salle avec des militaires. Au bout de 2 heures, ils me rendent mon passeport, ils me font signer mes papiers de fin de détention, simple vérification. Enfin, ils vous mettent la pression. L'idée, c'est de vous mettre la pression constamment. Après, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils n'avaient pas de véhicule disponible pour mon escorte. Mais comme j'avais l'accréditation, ils m'avaient autorisé à rester dans la ville cette fois-ci.
Donc vous avez pu travailler.
Voilà. Bon, ils m'ont demandé de pas sortir sans mon escorte, évidemment.
Ce que vous n'avez évidemment pas fait.
Évidemment pas. voilà. Et donc, du coup, j'ai pu travailler assez librement à partir de là.
On va essayer de comprendre justement les origines du mal, les origines de Boko Haram, dont je le disais, nord-est du pays, dans l'état de Borno. Regardons le moment où se fonde justement Boko Haram. On est au début des années 2000. L'homme qui est à l'origine de tout ça, c'est un homme qui s'appelle Mohamed Youssouf et qui va se faire progressivement connaître pour ses prêches, des prêches assez radicaux. Qui est cet homme et surtout comment est-ce qu'il est parvenu justement à fédérer autour de lui ce groupuscule qui va devenir Boko Haram?
Alors Mohamed Youssouf est un prédicateur salafiste qui vient d'une mouvance qui s'appelle les Izala, donc les Izala qui était une autre mouvance salafiste qui s'opposait aux confréries soufis qui est l'islam traditionnel dans le nord du Nigeria. Au retour de la démocratie au Nigeria en 1999, il y a eu une grande aspiration des populations du Nord, donc qui sont majoritairement musulmanes, d'augmenter le champ d'application de la charia, qui était déjà en place. Mais pour eux, une charia stricte, c'était l'espoir d'une justice sociale. Le problème du Nigérien, c'est la corruption endémique des élites, qui se coupe réellement du reste de la population. Les écarts sont énormes entre le bas et le haut de l'échelle. Et donc Mohamed Youssouf a joué là-dessus pour fédérer tout un tas de personnes, jeunes, pauvres, voire même éduquées, pour avoir pour voir cette charia appliquée de manière plus stricte. Il était, si vous voulez, il était un peu perçu comme une sorte de Che Guevara salafiste.
Alors, oui, donc ce qui fait son succès, c'est aussi toute cette dénonciation de la corruption, du mensonge, de la classe politique. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a bien sûr le discours religieux d'un côté, mais c'est plus que ça. C'est aussi tout un discours politique qu'il y a derrière.
C'est complètement ça. Lui s'inscrit dans un mouvement anti-establishment. Pour lui, la société démocratique nigérienne n'a pas lieu d'être. Quand on est musulman, comment on peut être dirigé par un non-musulman? Comment on peut être dirigé par une femme? C'est absolument hors de question. Et la démocratie représente tout ça à ses yeux. Et la démocratie représente aussi la fabrication de ces élites prédatrices qui sont insupportables aux yeux
Et en même temps, paradoxalement, il y a ce rejet du pouvoir central, ce rejet de l'establishment, mais ce qui va permettre aussi de cette montée en puissance de Boko Haram, c'est aussi précisément une forme d'alliance avec le pouvoir politique local, en l'occurrence, et en particulier cet homme, Ali Madou Chérif, qui est le gouverneur de cet État-là. C'est aussi parce qu'à un moment, il va y avoir une alliance entre Youssouf et Chérif que le groupe va se développer, en réalité.
Alors, qui est une alliance complètement contre nature, d'ailleurs, puisque au départ, Mohamed Youssouf passe son temps à taper sur les autorités nigérianes, à taper sur le pouvoir en place, ce qui lui vaut quelques petits soucis, puisque il encourage quelque part ses fidèles donc à commettre à manifester de manière violente leur opposition aux autorités. Certains donc sont emprisonnés, lui est en froid avec les autorités nigérianes, et c'est là où Ali Madou Chérif, le gouverneur de l'État du Borno, va lui proposer cette alliance en lui disant écoute, tu me soutiens, tu dis pas à tes fidèles de pas voter pour moi, de pas voter contre moi, pardon. Et si t'as des problèmes avec les autorités, on va s'arranger.
Et puis aussi, éventuellement, on verra si on peut effectivement mettre la charia peut-être plus en avant.
C'est une des raisons pour laquelle Mohamed Youssouf accepte aussi cette alliance, c'est que Ali Madou Chérif lui promet d'appliquer une charia stricte.
Sauf que l'alliance va tourner court, va y avoir une rupture. D'une certaine manière, les anciens et en particulier les jeunes soutien de Chérif vont se tourner vers Youssouf, et c'est à l'été 2009 que le conflit va véritablement s'ouvrir entre Boko Haram et l'armée.
Oui, parce que Mohamed Youssouf s'aperçoit qu'il a été berné, en fait, dans ce contrat. Il a participé, en tout cas, il a au moins facilité la réélection d'Ali Mohamed Cherif au poste de gouverneur. Et Ali Mohamed Cherif s'est pas du tout engagé dans dans l'application d'une charia plus étendue. Donc, à ce moment-là, les deux se brouillent. Le problème, c'est que Mohamed Youssouf, qui est de plus en plus populaire en tant que prêcheur salafiste, mais en tant que figure politique aussi, avec toute l'influence qu'il avait dans la région, il est clairement devenu une menace pour les autorités en place. Et à partir de ce moment-là, les autorités ont tout fait pour le museler et réduire son influence.
Oui, et ça va être assez radical parce que, disons-le, il va y avoir une offensive de l'armée qui va s'en prendre à la population sans véritablement savoir d'ailleurs qui soutient ou pas Boko Haram, et en particulier Youssouf qui va être exécuté en pleine rue.
Oui, alors tout ça a commencé sur un incident de contrôle routier. Ouais. Puisque la police avait pour ordre, les autorités, les forces de sécurité avaient pour ordre d'harceler le plus possible les fidèles de Mohamed Youssouf. Et puis un jour, il y a eu un contrôle routier avec des motards. Enfin, beaucoup de gens se déplacent en moto, notamment les fidèles de Mohamed Youssouf à l'époque se déplaçaient principalement en moto, puisque c'est un moyen de déplacement économique, et ne portaient pas le casque. Quasiment personne ne porte de casque au Nigeria. Ils en ont profité pour donc les harceler en leur disant « Arrêtez-vous, vous devriez porter des casques, c'est interdit, c'est la loi ». Évidemment, ils ont refusé. Et là, la police a tiré dans le tas. Donc, il y a eu 19 blessés. Les fidèles de Mohamed Youssouf sont devenus incontrôlables. Ils ont crié à la vengeance. Et ça a débouché sur la confrontation de Maïdougouri en 2009, où l'armée est appelée pour ramener le calme dans la rue. Mais là, on assiste à
un carnage. On voit effectivement ce nombre d'images dans votre documentaire, des images extrêmement violentes. En fait, c'est une double erreur de la part de l'État d'avoir tué Youssouf. D'abord parce qu'évidemment, on n'exécute pas quelqu'un sans procès quand on considère qu'on est une démocratie, évidemment. Mais en plus parce que Youssouf, d'une certaine manière, dans cette mouvance-là, c'est plutôt un modéré. Parce qu'en réalité, en coulisses, on a des hommes beaucoup plus radicaux, et en particulier Aboubakar Shekau, qui est lui l'actuel chef de Boko Haram, et qui en réalité prône bien plus la violence. Et c'est lui, en fait, qui va lancer vraiment la grande offensive contre l'armée, mais contre les populations de façon plus générale. C'est lui aussi qui va confessionnaliser ce conflit et qui va faire qu'on va commencer à s'en prendre aux églises, aux chrétiens, etc.
Oui, tout à fait. Mohamed Youssouf, il était... Mohamed Youssouf voulait faire le djihad. Mohamed Youssouf avait un discours très dur et très violent contre les leaders nigérians, même les leaders chrétiens. Cela dit, il ne se sentait pas prêt pour faire le djihad. Et là, Aboubakar Shekau, après cette confrontation, juste après l'incident du contrôle routier, lui, il a vu l'opportunité rêvée pour commencer et lancer le djihad. Donc, il s'est fini. Bon, ce début de djihad s'est fini par la mort de plus de 1000 personnes dans les rues de Maïdougouri. Et après, effectivement, Shekau reprend la tête du mouvement et lance ce djihad sans merci
grande offensive
sanguinaire contre l'État nigérien.
Et puis ensuite, il y a évidemment beaucoup de choses qui vont se passer, notamment la régionalisation du conflit. Effectivement, ces pays qui rentrent dans la lutte et Boko Haram qui, en retour, va lancer des offensives à l'extérieur de ses frontières, notamment du côté du Cameroun, du côté du Niger, du côté du Tchad. On n'a pas le temps, malheureusement, d'en parler ce matin, mais j'invite vraiment les auditeurs à voir ce documentaire parce que c'est vraiment excellent pour comprendre justement l'émergence de Boko Haram. Bravo pour votre travail.
Merci.
Je le dis en toute sincérité. Merci beaucoup Xavier Mounz d'être passé dans nos studios ce matin.
Merci.
Je rappelle votre documentaire Boko Haram, les origines du mal, et ça sera diffusé sur Arte le 28 juin prochain, c'est ça ?
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Come on, 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 come on
On va tourner notre page nigériane et s'intéresser à la Grande-Bretagne et à l'Europe, alors que la possibilité d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe se rapproche. Brexit, une opportunité pour l'Europe, c'est le titre de notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
On s'intéresse donc à ce référendum qui aura lieu la semaine prochaine en Grande-Bretagne sur une sortie éventuelle de l'Europe. Ce matin, le pays s'est réveillé bien sûr avec une énorme gueule de bois suite au meurtre de cette députée travailliste militant pour le maintien de l'Union européenne, Jo Cox.
Nous avons perdu une grande personnalité. Elle était une députée dévouée, avec beaucoup de compassion, un très grand cœur. Les gens sont très tristes de ce qui s'est passé. C'est une nouvelle épouvantable. C'est bien qu'on ait suspendu la campagne pour le référendum. Tout le monde doit être aux côtés de la famille de Joe, aux côtés de ses électeurs, pendant ce moment difficile.
Voilà, donc le Premier ministre David Cameron, choqué comme tous ses compatriotes par cet assassinat en pleine rue de cette députée fervent soutien de l'Europe. Il faudra attendre bien sûr un petit peu pour savoir s'il s'agit d'un assassinat politique ou l'œuvre d'un malade mental, mais tout le monde aujourd'hui en Grande-Bretagne s'interroge sur cet acte et puis qui révèle peut-être une chose importante, c'est que cette campagne, elle est extrêmement violente, cette campagne qui entoure ce vote pour cette sortie possible de l'Union européenne. On va s'interroger ce matin sur l'opportunité possible que pourrait constituer une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pour l'Europe. S'il ne s'agit pas évidemment de minimiser le risque qui est réel de voir le Brexit entraîner une désintégration de l'Union, on peut également se demander si finalement il ne constituerait pas une opportunité pour l'Union de repenser un projet européen au ralenti, pour pas dire carrément à l'arrêt, pour lequel tous les peuples européens ressentent une défiance de plus en plus forte. Alors le salut de l'Europe passerait-il par le Brexit ? Pour en parler, deux invités avec nous, Clémentine Forissier et Thierry Chopin, et bien sûr Marc Sémo du Monde, comme chaque vendredi. Marc, quel que sera le résultat du 23 juin prochain ? L'Europe, évidemment, est à un tournant. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, ça fait évidemment un choc terrible. Et en même temps, si la Grande-Bretagne décide de rester, il faudra quand même tirer les conclusions de cette crise. On se trouve dans un moment absolument décisif. Soit l'Europe se délite, soit elle repart en repensant son projet qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, ne parle plus au peuple européen.
C'est vrai, mais ça ne sera pas rapide. Il n'y aura pas le jour d'après. Alors, d'abord, comme rappelons une chose, le Brexit serait une catastrophe pour l'Europe. Comme le rappelait Pascal Lamy, la Grande-Bretagne, c'est 15% du PIB de l'Europe, c'est 30% de ses capacités diplomatiques, c'est 40% de sa défense. Donc, évidemment, ça serait un gros choc. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est que ce référendum du 23 juin n'engage ses résultats que le gouvernement britannique lui-même. C'est-à-dire c'est lui qui va fixer le rythme de la négociation. C'est sur 2 ans, mais elles sont 2 ans renouvelables. Donc cela risque d'être un processus extrêmement long. Tout est possible dedans, y compris un changement de majorité, y compris même dans l'absolu, même pas exclure éventuellement un nouveau référendum. Et ça sera en tout cas quelque chose qui n'aura pas des effets immédiats. Donc s'il y a un effet, ça va être avant tout dans le choc politique que représenterait cette décision des Britanniques sur les autres pays, avec le risque évidemment d'amplifier les tendances centrifuges, et l'anneau le plus faible, sans même parler des pays de l'Est, etc., l'anneau le plus faible, le plus lourdement symbolique, sont les Pays-Bas, qui est un pays qui a fait partie du noyau fondateur, où les tendances à suivre un exemple britannique sont comme très fortes, on l'a vu lors du référendum sur l'accord d'association avec l'Ukraine, et évidemment, si d'une manière ou d'une autre, même si apparemment légalement c'est pas possible de faire un référendum là-dessus aux Pays-Bas, l'onde de choc des Pays-Bas suivant les Britanniques serait absolument terrible. Bon, d'un autre côté, effectivement, il s'agit de repartir. Mais comment ? Est-ce qu'on repart zone euro ? Ça voudrait dire exclure les autres. En plus, en raison des agendas politiques électoraux, ni l'Allemagne ni la France ne peuvent faire grand-chose. Repartir à 27, ça risque d'être extrêmement long et compliqué. Alors, il y en a qui reparlent du noyau dur à 6, etc. Mais
notamment Hubert Védrine, on en parlera tout à l'heure.
Mais c'est un peu de l'utopie. Et donc, le vrai risque, c'est que, bon, on va prendre des initiatives. Hein. François Hollande parle sans arrêt de projets ambitieux, etc. Vraisemblablement, entre la France et l'Allemagne, ce qu'on va arriver au mieux à faire, c'est insister sur les frontières extérieures de l'Europe. Ce qui, effectivement, parle un peu à l'opinion. Ce qui, à la fois, a le mérite pour les Français en matière de protection contre le terrorisme, pour les Allemands de protection sur l'immigration. Mais c'est quand même pas ça qui fera rêver. Et donc le véritable risque maintenant, avec ce processus long dont on parlait au début, c'est que les Britanniques prennent en otage l'Europe pour très longtemps. Parce que même s'ils restent, qu'est-ce qui va se passer ? On va être dans une logique d'Europe à la carte, qui risque aussi de faire des émules. Et donc finalement, tout le projet européen, pour 2 ans minimum, voire 4, voire même plus, sera totalement à Londres. Et c'est Londres qui, paradoxalement, a aujourd'hui en main le sort de l'Europe.
Clémentine Forissier, réaction, est-ce que vous êtes aussi pessimiste d'une certaine manière que Marc Sebon, qui nous dit quand même que de toute façon ça risque d'être long et difficile? Nous, on propose effectivement de dire que le Brexit, c'est peut-être une opportunité pour repenser le projet européen.
Ce qui est sûr, c'est que les choses vont devoir évoluer. Là où je rejoins complètement Marc Sebon, c'est que je pense que ça prendra beaucoup de temps dans tous les cas de figure. Cette campagne a montré au moins une chose, c'est quel que soit le camp, il y a une incapacité totale à avoir un discours sur l'Europe. Parce que même ceux qui veulent que le Royaume-Uni reste dans l'Europe se sont complètement interdits d'avoir une vraie narration. Il y a un discours en défense, c'est-à-dire si on quitte l'Europe, ça va être une catastrophe économique, il y a des milliards d'études qui sont sorties, etc. Mais le gouvernement britannique et surtout le Premier ministre ont refusé ce discours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce refus d'avoir un discours sur l'Europe, pour traduire une sorte de vision, il est aussi présent quand on pense à la France, quand on pense à l'Allemagne, à la Commission européenne ou à Bruxelles. Les institutions, elles peuvent rien faire sans les États, s'il n'y a pas un réel soutien politique. L'autre jour, il y avait eu le premier discours de campagne de François Hollande, si je peux faire un raccourci comme celui-là, au Théâtre du Rond-Point. Et juste avant, il y avait des chercheurs sociaux-démocrates qui disaient, de toute façon, ce qui est clair, c'est que dans la campagne pour les présidentielles de 2017, il faudra pas parler d'Europe parce que c'est un vrai repoussoir. Ça a été exprimé. Donc, je vois pas vraiment comment, par la suite, même si s'il y avait un Brexit ou s'il y avait même un maintien du Royaume-Uni dans l'UE, moi, de toute façon, à très court terme, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que en France en particulier et en Allemagne, je pense que la marge de manœuvre d'Angela Merkel est pas beaucoup plus grande. Il n'y aura pas de discours sur l'Europe. Il n'y aura pas de vraies propositions. Comme on le disait, ce qui semble un peu émerger, c'est des propositions qui pourraient avoir lieu sur la défense et sur la sécurité. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une réaction s'il y a un Brexit. Il y aura des mots qui seront prononcés. On essaiera de dire que c'est un moment très grave pour l'Europe, qu'il faut absolument
mais
se recentrer, etc.
Mais ça s'arrêtera au discours.
Pour moi, ça s'arrêtera au discours.
Il n'y aura pas d'initiative.
À court terme, ça s'arrêtera au discours.
Thierry Chopin.
Je pense que dans les deux cas, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que, en cas de Brexit, évidemment, les conséquences, à la fois pour le Royaume-Uni, mais surtout pour l'Union européenne, seront importantes en termes d'amputation économique, stratégique, démocratique aussi. Je pense qu'il faut le souligner. Et en cas de Brexit, effectivement, il faudra repenser l'articulation, finalement, entre ceux qui resteront et puis un Royaume-Uni dont beaucoup d'États, les Pays-Bas dont Marc a parlé, mais aussi l'Allemagne au premier chef, voudront que le Royaume-Uni reste arrimé d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, à l'Union européenne. Donc il faudra repenser l'articulation entre les deux. Mais même en cas de Remain, en cas de maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, pour ma part, je pense que votre question est aussi pertinente dans ce scénario-là, pas uniquement en cas de Brexit, et que repenser le projet européen, repenser l'articulation des deux Europes que sont effectivement la zone euro d'un côté et le marché intérieur à 28 de l'autre, devra être repensé également. Et on voit bien qu'en cas de Remain, après l'immense ouf de soulagement qui ne manquera pas de s'exprimer dans l'ensemble de l'Union européenne, le risque, en fait, sera de s'en tenir au statu quo. Parce que ce référendum, en tout cas ce résultat actant un maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, consistera à dire, mais vous voyez, donc même nos amis britanniques, pourtant les plus eurosceptiques, veulent rester, mais ce choix est un choix du statu quo, pas un choix en faveur d'une réforme.
C'est précisément d'ailleurs ce que dit Hubert Védrine dans sa tribune au Monde, c'est que ce statu quo, selon lui, n'est plus tenable. Il dit, au-delà, au fond, de la question du Brexit, le constat est tout le monde le fait, on a en gros 15-25% d'anti-européens, quels que soient les pays d'Europe, entre 15 et 20% de pro-européens, et puis une grande majorité d'eurosceptiques, rappelle-t-il, au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens, en gros, qui sont un peu indécis. Et donc, on a dans les pro-européens, en plus, une très petite minorité de fédéralistes, et on explique à tous les peuples européens, en réalité, qu'il nous faut ce fameux saut fédéraliste, mais en réalité, c'est plus quelque chose qui tient du mythe. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut rester dans ce statu quo? Vous disiez, il y aura des discours, mais est-ce qu'on peut s'en tenir aux discours? Clémentine Forissier, est-ce qu'il va pas falloir faire, comme par exemple on pose Védrine, une conférence avec quelques petits pays, les 6 pays qui étaient effectivement déjà présents lors de la conférence de Messine en 1955, c'est-à-dire la France, la RFA, l'Allemagne bien sûr maintenant, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et les Pays-Bas.
Je pense qu'il faudra faire quelque chose. Je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faudra rien faire.
Vous dites on aura des discours et c'est
mais
tout.
Mais je pense qu'à court terme, avant janvier 2018, c'est-à-dire avant, en gros, que le contrat de coalition soit négocié, parce qu'il y a les élections en France, après il y a les élections en Allemagne, et après il y a 3-4 mois pour négocier un contrat de coalition en Allemagne, en gros. Avant ce moment-là, de très concret, je ne vois absolument pas ce qui peut se passer. Mais c'est vraiment purement du court terme, en fait. Finalement, l'Union européenne, elle avance.
Et pourquoi vous ne voyez pas ce qui peut se passer? Parce que vous ne voyez pas quel projet nouveau on pourrait mettre en place, ou parce que vous ne voyez pas de leader à l'intérieur de l'Union européenne capable de porter ce projet?
Je pense qu'il y a un désaccord profond sur le projet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de la zone euro. Il y a plusieurs cercles qui sont imaginés. Il y a le cercle des 6, il y a le cercle des 19 de la zone euro. L'Union européenne, intégralement, je pense que quand même tout le monde est un peu d'accord pour dire qu'il va falloir qu'elle fonctionne à différentes vitesses. Mais si on prend la zone euro, par exemple, entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas d'accord aujourd'hui sur le projet. On n'arrête pas d'entendre depuis un an qu'il va y avoir des propositions franco-allemandes. Moi, pour l'instant, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont des informations meilleures que les miennes, j'en doute pas, mais je vois pas de projet franco-allemand pour l'intégration de la zone euro. Les idées, on les connaît. Simplement, il y a une vision différente. Pour schématiser, aujourd'hui, tant que les Français sont dans cette situation économique, les Allemands leur font pas fondamentalement confiance sur leur capacité, finalement, à pousser encore plus loin l'intégration de la zone euro. Et de l'autre côté, les Français ont un discours qui est opposé, qui dit bon, il faut arrêter avec ce discours sur l'austérité, il faut faire de la relance par l'investissement. On n'a pas vraiment beaucoup bougé de discours là-dessus depuis le quinquennat de François Hollande. Et les oppositions entre Français et Allemands, elles existent toujours sur ce sujet. Quant à faire un noyau dur à 6, Marc Zemmour le disait, je veux dire, aux Pays-Bas, il y a des fortes réticences sur l'Europe. Il y a un référendum qui s'est exprimé il y a quelques mois. Dorénavant, c'est plus simple d'organiser des référendums. Il pourrait y en avoir sur d'autres questions européennes. Il y a des vrais doutes qui s'expriment. Et puis, quelle est la légitimité aujourd'hui de ces 6, de ce noyau dur? C'est Bruno Le Maire qui le porte dans son projet pour la primaire. Il y a d'autres politiques qui ont ça en tête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, elle fonctionne plus comme ça. Je suis pas du tout convaincu de la légitimité des 6 pays qui ont initialement fondé l'Europe.
Thierry Chopin, puis Marc Zemmour. Thierry Chopin.
Oui, trois choses que j'espère rapides. Je trouve réjouissant, en tout cas, de voir même quelqu'un comme Hubert Védrine déclare en fait que le statu quo n'est pas tenable, parce qu'il n'a pas toujours été sur cette ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est déjà une avancée, en fait, et je trouve que c'est une raison d'espérer. Maintenant, il faudrait préciser que ce statu quo, il peut risquer d'être régressif. Parce que si le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne, moi, ce que je souhaite personnellement, ça supposera comme d'appliquer l'accord qui a été négocié en février dernier avec les partenaires de Londres et qui pourrait conduire à une régression, notamment sur les questions de liberté de circulation. La deuxième chose, c'est la question de la méthode. Et la question de la méthode, c'est effectivement quel est le périmètre, en fait, pour ces initiatives, même hypothétiques. Je pense que, il faut toujours partir d'une tentative sincère d'avancer avec le périmètre d'État le plus large possible. C'est-à-dire à 28, si le Royaume-Uni reste, à 27, s'il ne reste
monde,
pas. Non, mais je crois que c'est une vision aussi très française de considérer que le périmètre idéal, c'est finalement un petit noyau dur avec cette espèce de fascination pour l'Europe de Charlemagne. Hein. C'est l'Europe carolingienne, finalement, des 6 fondateurs. Christian Lequesne a écrit des choses, je trouve, assez décisives sur la nostalgie de la petite Europe dans un pays comme la France. Évidemment, très liée à la logique de réincarnation de la France à l'échelle européenne, à l'échelle supérieure, je crois qu'effectivement, on n'est plus là-dedans. Donc toujours partir d'une tentative sincère d'avancer avec le périmètre d'État le plus large possible. Si on n'y arrive pas, bah oui, on descend d'un cran. Mais est-ce que la zone euro est le périmètre finalement idéal? Pas forcément. Oui, ça peut l'être. L'exemple, c'est le traité budgétaire. On n'a pas réussi à 28, le Royaume-Uni et la République tchèque ne voulaient pas. On l'a fait à 26. Et si on n'y arrive pas à 26, bah oui, redescendons encore d'un cran. Mais ne créons pas de frustration, notamment à l'égard des pays centre et est européens, voire d'autres pays du Sud.
Qui serait exclu de cette refonte.
Ouais. Qui serait exclu de cette refonte. Et puis, troisième point, on y reviendra tout à l'heure, c'est évidemment la question du contenu. Et
bien sûr.
On pourra en reparler.
On va en reparler. Marc, c'est bon.
Oui, alors, justement, ce qui risque de se passer, c'est que finalement, entre une Grande-Bretagne qui renégociera sa place dans l'espace économique européen, un peu comme la Suisse et la Norvège, y compris dans ce qu'elle aura payé, c'est quasiment la même chose, et une Grande-Bretagne qui reste dans une Europe à la carte, la différence ne sera pas énorme. D'autant que, à part le symbole politique, hein, d'autant que l'Allemagne tient à garder la Grande-Bretagne d'une manière ou d'une autre, y compris dans un espace juste à côté, dans la barque, parce qu'elle a très peur de ce face-à-face avec la France, disons-le clairement, malgré le moteur franco-allemand, etc., de cette Europe trop française, entre guillemets, une Europe de gabegie qui pille les économies des retraités allemands. Donc, l'Allemagne fera tout pour que la Grande-Bretagne reste d'une manière ou d'une autre dans la barque. Donc, finalement, c'est ça la question. Et le texte de Hubert Védrine, qui est effectivement passionnant, hein, donc il faut lire dans la version intégrale, d'ailleurs, sur le web, le problème, c'est que ce qu'il propose, c'est un moratoire de 2 ans. Mais
de fait, il y sera là, le moratoire de 2 ans, parce que rien ne va bouger. La vraie question que lui pose dans son texte, qui est comment réconcilier les peuples européens et les élites, ce n'est pas possible sans quelque chose de beaucoup plus fort. Et là, je reviens à une vieille idée, qui était celle de Daniel Cohn-Bendit et de Guy Verhofstadt, dans leur livre commun, qui était celle d'un référendum sur l'Europe, simultané, de tous les pays membres, sur... basique, il ne s'agit pas de reparler du traité constitutionnel avec toutes les annexes, mais sur le projet européen lui-même. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est est-ce que oui ou non, les gens veulent ou non rester dans l'Europe et est-ce qu'ils veulent aller de l'avant dans l'Europe. Et si on regarde, à chaque fois, finalement, et on verra même peut-être pour la Grande-Bretagne, l'attrait de l'Europe reste. Même malgré cette Europe bureaucratique, on lisait, etc. Et je pense que c'est là-dessus. C'est-à-dire, il faut une autre onde de choc que celle négative, quel que soit le résultat de ce vote sur le Brexit.
Vous avez raison de rappeler, Marc Semo, qu'effectivement, au cœur de la tribune du Berlin, c'est cette question de savoir comment est-ce qu'on fait pour convaincre les sociétés civiles de se lancer dans ce nouveau projet européen. Clémentine Forissier.
Juste une petite réaction par rapport à ça. Vous évoquiez Pascal Lamy tout à l'heure. Il dit quelque chose qui, à mon avis, est assez juste. Là, on va peut-être parler de quel serait le projet, zone euro, pas zone euro, quelles seraient les réformes qu'on pourrait mettre en place, etc. Mais finalement... Mais en fait... Ça va pas intéresser les peuples, je veux dire, les populismes qui montent dans les différents pays d'Europe, la haine dans le débat public, la mort de Joe Cox, franchement, c'est l'acmé, hein, je veux dire, c'est très violent, les discussions qu'il peut y avoir, etc. J'ai bien peur que ce qu'on mette sur la table d'un point de vue institutionnel dans les 3 ans ou 4 ans qui viennent, ça résolve pas le problème.
C'est pour ça qu'effectivement, l'idée d'un référendum, ça a l'avantage très simple, d'être clair.
Oui, parce que ça pourrait...
directement les
je sais pas civiles. Je sais pas si c'est une bonne idée de référendum, mais en tout cas, ça pourrait avoir au moins le mérite d'une chose, c'est de poser la question de qu'est-ce qui rapproche les Européens, en fait. Parce qu'à la midi, l'Europe souffre d'une cécité anthropologique, c'est-à-dire que dès lors que les Européens n'auront pas fait ce travail de mettre leurs différences sur la table pour les regarder et après de se comparer avec le reste du monde en voyant que finalement, ce qui les éloigne est finalement beaucoup plus proche que ce qui les éloigne du reste du monde, je sais pas si je suis claire, on n'arrivera pas à faire ce travail. Il y a une vraie prise de conscience à avoir de ce qui nous rapproche en Europe, parce que sinon, si c'est que une question de gestion institutionnelle, franchement, pourra avoir la même émission dans 5 ans.
Toute la question est là. Comment est-ce qu'on fait justement pour déclencher cette prise de conscience? Tout est là.
L'idée du référendum, peut-être.
Thierry Chopin.
Ouais, je ne sais pas si le référendum, en tout cas comme postulat, est une bonne idée, mais en tout cas, je pense que la question de repenser le projet européen doit être abordée sur 2 registres. Il y a fondamentalement, d'abord, sur un registre intellectuel. De là découlerait, à mon avis, le projet politique. Pourquoi sur le registre intellectuel? Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup quand on regarde la situation de l'Union européenne et de ses États et de ses peuples, c'est que finalement, on peut, je crois, l'analyser en termes de crise de la démocratie libérale, à la fois sur un plan économique et sur un plan politique. Nos valeurs sont battues en brèche, sont contestées à la fois par des forces externes, par des forces internes, montée des populismes, effectivement, évolution de certains régimes politiques européens vers des formes de démocratie illibérale dont a beaucoup parlé Jacques Krupnik récemment, et je crois qu'il a raison, islamisme radical qui met aussi en cause ces valeurs-là, fascination à la droite radicale ou à la gauche radicale pour des modèles, finalement, d'organisation politique et économique, russe ou chinois, je veux dire, qui ne fonctionnent pas en ligne avec nos valeurs finalement les plus ancrées sur la base desquelles reposent nos démocraties libérales en Europe, nationalement et au niveau européen. Donc je pense qu'il faut d'abord en fait reconstruire ce projet intellectuel-là en fait. Et de là découlera ensuite, à mon avis, des pistes politiques.
Qu'est-ce qu'on met au cœur de ce projet, justement? Qu'on fait comme on avait fait au départ? C'est-à-dire, en gros, on remet la question de la sécurité des peuples au cœur du projet?
Je pense qu'il faut réaffirmer d'abord le principe de liberté. Ce qui est quand même très frappant dans tous les discours populistes, extrémistes, qui convergent dans un discours anti-européen, que ce soit sur le plan politique ou économique, qui contestent la légitimité du système politique économique européen, c'est quand même une mise en cause en fait des principes de liberté. Or, il me semble que les attentats terroristes qui ont eu lieu nous montrent qu'il faut qu'on défende effectivement ces principes-là de manière beaucoup, beaucoup plus forte que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ça, je pense que c'est un préalable indispensable. En même temps, s'il y a critique de nos nos démocraties libérales, c'est parce que effectivement nos systèmes butent sur un certain nombre de lacunes et d'insuffisances. Or, je pense que la force en fait du libéralisme européen doit être de faire un travail critique d'évaluation des limites en fait de nos systèmes, à la fois sur le plan économique et social, à la fois aussi, vous avez raison, en matière de sécurité. Et donc, on doit repenser l'articulation entre l'égalité et la liberté d'un côté, entre la liberté et la sécurité de l'autre, et entre liberté et identité. On voit bien ce qui est, c'est vraiment ça qui est au cœur, en fait, du problème européen actuel.
Marc Sémon.
Oui, mais ce qui est très compliqué dans le fait de réconcilier les élites et les peuples en Europe, c'est que les peuples, les partis populistes, même si c'est un mot valise, qui en partie sont leur porte-voix, demandent des choses totalement différentes entre le Nord et le Sud. Opposées. C'est-à-dire, globalement, au Nord, on a des partis populistes, des opinions publiques indignées sur la solidarité vis-à-vis de ces, entre guillemets, fainéants du Sud, et ils votent à droite, voire à l'extrême droite. Au Sud, Espagne, Grèce, etc., c'est le rejet de l'austérité, et ils votent à gauche, à l'extrême gauche. La France est entre les deux, c'est un peu la synthèse des deux, et ce qui n'est pas rassurant d'ailleurs. Mais alors, c'est très compliqué, là-dessus, de donner une réponse commune. Hein, écouter les peuples d'Europe qui veulent des choses diamétralement opposées n'est pas extrêmement simple. Donc il s'agit de retrouver quelque chose. Alors effectivement, ça peut être la liberté, la démocratie, mais c'est compliqué.
Encore une fois, liberté et démocratie, en tenant compte d'exigences formulées par des peuples, alors effectivement, au centre, à l'est, au sud, où on veut, mais il y a au moins deux exigences qui sont complémentaires de cette aspiration à la liberté, c'est-à-dire, un, l'exigence d'égalité et de justice sociale. Oui, sous l'effet de la crise économique et financière et de ses conséquences économiques et sociales, il y a une demande, en fait, à cet égard, et on sait qu'historiquement, ces demandes ont conduit au socialisme. Enfin, je veux dire, c'est historiquement... quelque chose de très prégnant. Et par ailleurs, on voit bien qu'il y a aussi un problème posé par les questions d'identité et de sécurité. Et de ne pas prendre en considération, que nos systèmes libéraux ne prennent pas en considération ces exigences politiques fondamentales formulées par les peuples. Alors, de manière plus ou moins diverse, en mettant le curseur sur tel ou tel point en fonction des États où on se trouve, bah oui, on risque effectivement d'alimenter des discours de plus en plus critiques à l'égard de nos propres systèmes.
Clémentine Forissier, qu'est-ce qu'on met donc au cœur de ce nouveau projet européen, si nouveau projet européen il y a, pour rallier justement les mécontents du nord de l'Europe et du sud de l'Europe, Clémentine Forissier?
Je serais ravie si je pouvais vous apporter la réponse là tout de suite. Je pense que c'est intéressant ce débat parce que ça montre aussi que, à mon avis, personne ne l'a aujourd'hui la réponse. Et c'est peut-être en ça que ce référendum au Royaume-Uni va nous obliger, en tout cas, nous poser la question de manière très prégnante. Il y a plusieurs idées qui circulent. Ce que je trouvais intéressant avec cette histoire de référendum, moi je suis pas une grande partisane du référendum pour plein de raisons, mais en tout cas ce qui pourrait être intéressant, c'est d'oser ne serait-ce que poser le débat. C'est-à-dire, finalement, on a fait l'Europe pour la paix. Aujourd'hui, ça parle plus du tout aux jeunes générations pour qui la guerre 39-45, franchement, c'est pas forcément un horizon très proche. Mais en même temps, la sécurité et la paix se posent d'une manière différente aujourd'hui quand on voit la façon dont on est victime du terrorisme et qu'on sait absolument pas gérer ce problème. Donc ça pourrait être une nouvelle manière de se dire, bon, comment on fait pour essayer de faire prévaloir nos valeurs, de faire en sorte que l'Europe soit un endroit qui continue à rester un espace de paix par rapport à ces nouvelles menaces qu'on est en train de vivre. Ça pourrait, le point de départ pourrait peut-être être celui-là, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui se trame dans les idées de nos dirigeants actuellement.
Vous êtes sur la ligne védrinienne, hein, de ce point de vue-là, hein. La sécurité au cœur du nouveau projet.
Hein. Ben, finalement, ça rejoint le projet initial qui était maintenir la paix. Je veux dire, c'est une autre manière de l'envisager. Franchement, moi j'ai 36 ans, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un qui en a 20 et qui est en train de faire ses études. Je me pose cette question. Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu un petit peu loin? Et il y a un autre point, et là je pense que c'est quand même assez important, c'est l'éducation et la culture aussi. Enfin, je veux dire, l'éducation en tout cas et la façon dont on instille cette idée d'Europe dans l'éducation des jeunes. Enfin, il y a quelque chose à repenser autour de ça, clairement.
Thierry Chopin.
Oui, je suis entièrement d'accord avec Clémentine, en fait, sur les deux points. Je commencerai par dire très rapidement sur, enfin, la culture, même au sens presque, on doit défendre notre modèle de civilisation, quoi. Enfin, je pense que ça, c'est quand même le soubassement. Et sur les questions de sécurité, je pense qu'effectivement, ce qui est de nature, à mon avis, à rejustifier le projet européen, c'est le fait que, finalement, qu'est-ce qui a fondé le projet européen du point de vue de sa construction? On a bâti un espace de liberté de circulation avec un minimum de transfert de souveraineté. Or, ça a fonctionné jusqu'au moment où s'est pris des chocs terribles, à la fois économiques et financiers, puis ensuite le terrorisme, et puis la crise des réfugiés, enfin des migrants, etc. Et on voit bien que l'Union européenne a été dépourvue face à ces défis-là parce qu'elle n'est pas formatée pour relever des défis de nature régalienne. Tous ces défis, en fait, touchent au cœur de la souveraineté des États, et donc il ne faut pas s'étonner, effectivement, qu'il y ait un repli sur le niveau politique qui est jugé le plus, d'ailleurs, naturel et le plus efficace, mais ça, on peut en discuter, pour répondre à ces défis-là. Je dis on peut en discuter parce qu'effectivement, ces défis sont tous transnationaux. Donc on voit pas très bien comment le scénario du repli national pourrait permettre en fait de répondre à ça. Or, ça c'est quand même de nature, c'est une demande absolument fondamentale. Pourquoi des peuples et des États s'unissent ? Bah, sans doute d'abord pour protéger leurs droits politiques. Or, si on n'y arrive pas, bah, bien sûr que le projet sera délégitimé. Donc je pense que c'est la bonne clé d'entrée. Et effectivement, alors on peut... Aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est dans les ce qu'on entend et encore du bout des lèvres de la part des dirigeants pour avancer, pour prendre peut-être le début en fait d'une initiative en matière de contrôle des frontières extérieures. Mais il y a tout un discours, Clémentine parlait de narration tout à l'heure, il y a tout un discours à bâtir sur, effectivement, la manière dont les Européens pourraient gérer ensemble, alors sous des formes à définir, des compétences qui sont régaliennes, à la fois en matière, certes, de contrôle aux frontières extérieures, mais aussi en matière d'antiterrorisme, en matière de sécurité extérieure, et on pourrait multiplier les exemples. Il y a quand même moyen d'articuler un discours assez cohérent et assez mobilisateur.
Sauf qu'on voit bien que précisément cette question de protection des frontières, etc., aujourd'hui, elle est largement remise en cause, et par, évidemment, un choc extérieur, cette question de la crise migratoire. Donc, effectivement, est-ce que, du coup, de ce point de vue-là, il faudrait proposer aux Européens, justement, la mise en place d'une nouvelle redéfinition des frontières géographiques de cette potentielle nouvelle union ?
Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin de redéfinition des frontières. Les frontières extérieures, elles existent, de fait, empiriquement. Le problème, c'est que, un peu d'ailleurs comme ce qui s'est passé pendant la crise de la zone euro, on a découvert qu'un déficit grec était un déficit européen et donc supposait une mutualisation des réponses au niveau supérieur, au niveau européen. Là, on découvre finalement, avec la crise des réfugiés, qu'une frontière grecque ou italienne est un segment d'une frontière commune. Et donc, évidemment, on prend conscience très lentement que ça suppose des moyens d'action qui vont au-delà des États. Et c'est ça, en fait, dont il faut tirer, en fait, je crois, les conséquences de cette prise de conscience, mais qui prend toujours trop de temps et qui donne d'ailleurs le sentiment, qui alimente le sentiment dans les opinions publiques, qu'on est toujours en retard d'une crise. Et donc, qu'on réagit. Et donc, finalement, il faut aussi donner, par là même, je crois, le sentiment aux citoyens, bah, qu'ils peuvent retrouver un sentiment de liberté, de pouvoir peser encore une fois sur les crises en fait qui leur sont lancées et pouvoir relever ces défis souverainement. C'est vraiment le défi de l'Europe régalienne en fait. Hein, si
bon
on
courage.
Peut peut-être le dire comme ça.
Bon courage. J'aimerais vraiment beaucoup que ce discours sur la liberté convainc les peuples européens. J'en suis vraiment pas convaincu. J'aimerais que ce soit le cas. Hein,
mais... Et reste à ceux qui croient encore à ce. Ce qui est très frappant, je veux dire, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une montée des radicalités. Les seuls qui ne tiennent pas de discours finalement radicaux, ce sont les partisans.
Ce discours sur la liberté, précisément, ces personnes qui prônent cette radicalité, ils ne l'entendent pas.
Ben oui, mais il y a tous les autres.
Oui, mais ils sont majoritaires. Et ils empêchent.
Les radicaux sont majoritaires.
L'avancée de l'Europe. En tout cas, ils sont un obstacle.
Ils sont sans doute un obstacle, mais je ne suis pas du tout sûr que les radicaux soient majoritaires. Il y a une grande majorité silencieuse.
Clémentine Forissier.
Moi, je pense pas non plus que les radicaux soient majoritaires. Je pense qu'ils font énormément de bruit et qu'il faut les entendre. C'est peut-être une autre manière d'envisager le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'en cas de Brexit, on perd quand même un partenaire important pour tout ce qui est diplomatique, pour tout ce qui est défense, pour tout ce qui est sécurité, etc. Le Royaume-Uni, c'est quand même un des pays en Europe avec lequel on peut avancer dans ce domaine-là. Et donc, ça pose quand même une vraie question. Et d'autre part, la description que fait Thierry Chopin, c'est intéressant, mais ça se heurte à un problème fondamental pour la France, parce que les Français ont toujours vu l'Europe comme une grande France. Il va falloir changer de vision. Et la délégation de souveraineté supplémentaire, et notamment quand on parle de sujets régaliens, c'est un vrai sujet. Je pense que ça... je partage en partie le discours, mais je dirais qu'il faut que ce soit porté politiquement. Et moi, je vois pas qui en France... Et là, je reviens, je suis désolée, je suis terre à terre, mais on va avoir une année de campagne électorale. Je ne vois pas qui en France peut porter un discours comme celui-là.
Ce qui fait que ce discours est bloqué au moins pour 2 ans.
Thierry Chopin ?
Oui, Alors, effectivement, l'argument que j'évoquais pouvait donner l'impression de réclamer de nouveaux transferts de souveraineté, ce qui effectivement est considéré comme impossible, en fait, compte tenu de l'état des opinions publiques, de la chasse d'état de gouvernement, ce qui est aussi un argument qui leur permet de se dédouaner de leurs responsabilités, hein, entre nous. Mais dans la tribune d'Hubert Védrine que vous mentionniez, il y a comme un élément très intéressant, d'ailleurs, je pense qu'Hubert Védrine l'emprunte à Michel Fouché, en réalité, et qui consiste à dire, mais... Et moi, je suis assez convaincu, en fait, par cet argument-là. C'est-à-dire que le dilemme auquel nous sommes confrontés, c'est la nécessité, d'un côté, de relever des défis de nature régalienne, mais au-dessus des États nationaux. Ces défis peuvent être relevés au niveau européen. Mais sous quelle forme? C'est la question, là, des modalités. Alors là, ça devient un peu plus technique, oui, un peu plus... on touche aux questions de méthode. Et finalement, il y a la méthode classique, c'est le transfert de souveraineté. Mais... on voit bien que ça marche pas. En tout cas, c'est très difficile à porter politiquement. Donc, quelle serait l'alternative?
Ils n'en veulent pas. Mario Monti, vous l'avez peut-être lu il y a quelques mois dans une interview dans l'Expansion, il disait appeler à un saut fédéral n'est plus possible. Si on propose au peuple un grand saut fédéral pour devenir assez rapidement les États-Unis d'Europe, ils refuseront.
Oui, mais je pense qu'il faut arrêter effectivement avec un discours très idéologique sur le fédéralisme, surtout dans un pays d'ailleurs comme la France où ce mot est un mot tabou. Donc, je suis assez d'accord avec ces précautions de langage. Mais l'alternative au pur transfert de souveraineté, c'est quoi? C'est la co-gestion, en fait, nationale et européenne. C'est ce que propose Hubert Védrine, encore une fois, à mon avis, dans le droit de Michel Fouché. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée de nature à répondre, en fait, au dilemme exercice de compétences régaliennes au niveau européen, tout en respectant la souveraineté des États. Et ça me semble effectivement une très, très bonne piste.
Clémentine Forissier, je vois que vous voulez intervenir. Allez, le mot de la fin, je vous laisse 20 secondes.
En fait, je repensais à ce que je venais de dire. Je me disais finalement, l'idée de penser que c'est quelqu'un qui va concourir pour la présidentielle qui doit porter un projet politique pour l'Europe, je disais, c'est une vision un peu old school de la vie politique. Peut-être que ça ne doit pas venir justement forcément du politique. Peut-être que cette co-construction d'un nouveau projet, elle doit venir de la société civile en très grande partie. Et c'est peut-être pas le politique qui la portera seul. Enfin, c'est certainement pas le politique qui la portera seul.
Vous la sentez venir ?
Pas forcément, mais je suis pas sûre que ça puisse venir, en tout cas, d'en haut vers le bas. It's about you and me, it's about unity, and you don't know what leaving would do to me, or you, cause if there's one thing that's true, it's that when it comes to leaving, we don't have a clue, well, we do, we'll be at the back of the queue on trade with the US, but the rest is a mystery, the Brexiters are blatantly clutching at straws, citing immigration issues, we need to close our doors, there's a refugee crisis, people dying.
Rob Castel, un rap justement sur le Brexit potentiel pour conclure cette émission, petit clin d'œil, comment? Alors, il faudra écouter les paroles. Merci beaucoup, Marc Semo, Du Monde, Thierry Chopin et Clémentine Forissier.